Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, la déclaration d'indépendance du cyberespace.
Nous avons commencé cette série d'émissions avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous la terminons avec un manifeste qui date de 1996, la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Ce texte exprime une ambition similaire, faire table rase du passé, énoncer les principes d'un monde nouveau, plus libre, plus démocratique. Ce monde, c'est celui d'Internet, créé 6 ans plus tôt et encore balbutiant à l'époque. La comparaison atteint vite ses limites, évidemment. Adoptée il y a plus de 2 siècles, la déclaration de 89 constitue toujours le socle de notre état de droit, sans parler de ses déclinaisons européennes et universelles. Un quart de siècle après sa publication, en revanche, la déclaration d'indépendance du cyberespace apparaît déjà dépassée, comme submergée par le développement vertigineux de la société numérique. Pour John Perry Barlow, l'auteur de ce manifeste, Internet allait changer le monde. C'était ça son ambition. Et il avait raison. L'agora planétaire est devenue une réalité. Des millions d'utilisateurs échangent quotidiennement. Cette conversation publique, cette conversation collective est nourrie par l'accès instantané à des quantités de données inimaginables il y a encore 3 décennies. Et la technologie libératrice a ouvert la voie au règne des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui s'impose chaque jour davantage dans tous les aspects de nos vies. Reste à savoir si cette civilisation numérique qui se construit sous nos yeux est fidèle à l'utopie fondatrice. Le cyberespace est-il indépendant ? Le progrès technique a-t-il été un facteur d'émancipation ou de servitude nouvelle, de servitude volontaire ? Bref, avons-nous gagné ou perdu au change ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Jean. Vous êtes docteur en sciences, vous développez des algorithmes appliqués à des domaines aussi variés que l'ingénierie, la médecine, la finance ou l'éducation. Vous enseignez en formation continue et vous êtes entrepreneur à la tête de 2 sociétés spécialisées dans la modélisation algorithmique. Vous allez nous expliquer ce que c'est. 2 sociétés que vous avez créées. Vous avez publié 2 essais très éclairants pour les béotiens dont je suis, De l'autre côté de la machine en 2019 et Les algorithmes font-ils la loi en 2021. Et vous venez de publier un roman de science-fiction, Résistance 2050, coécrit avec l'écrivaine et réalisatrice Amanda Steers. Vos 3 livres sont publiés aux éditions de l'Observatoire. Bonjour, Aurélie Jean.
Bonjour.
Et pour échanger avec vous, nous accueillons Bruno Patineau. Vous êtes le président d'Arte, après avoir été directeur de France Culture, puis directeur délégué de France Télévisions, en charge notamment du développement numérique. Et auparavant, nous étions croisés à cette époque, au tournant des années 2000, vous avez dirigé Le Monde Interactif et vous en avez fait l'un des sites pionniers et majeurs de la presse française. Vous avez publié 2 essais, tout aussi stimulants que ceux d'Aurélie Jean, La civilisation du poisson rouge en 2019 et Tempête dans le bocal en 2022, tous 2 au livre de poche. Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
Alors, on va peut-être commencer, Aurélie Jean, avec 2 questions pédagogiques, 2 questions préalables, au moins pour ceux qui n'auraient pas lu votre essai sur l'autre côté de la machine. D'abord, quelle est l'origine du mot algorithme ? Vous baignez là-dedans, mais au fond, moi j'ai appris des tas de choses en vous lisant. Quelle est l'origine de ce mot et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, ce mot qui suscite autant d'inquiétudes que de fantasmes chaque jour ?
Merci pour votre question, parce que ça me donne l'opportunité de contextualiser ce mot et cette science dans les temps longs, parce qu'en fait c'est une science très ancienne. Le mot algorithme vient du nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi du 9e siècle de notre ère, qui est aussi le père de l'algèbre, donc algorithmi.
Mais donc algorithme avec un i et pas avec un y.
Et sans h, oui, exactement. Donc c'est un nom latin qui vient du nom de mathématicien perse Al-Khwarizmi, qui était donc du 9e siècle, mais la science algorithmique était encore plus ancienne, puisque en fait, elle date du 3e siècle de notre ère avec l'œuvre magistrale Les éléments d'Euclide, dans lequel Euclide nous fait un livre avec des éléments géométriques, parce qu'à l'époque c'était la géométrie et pas des maths, les maths sont arrivées après. Donc des éléments géométriques comme la droite, le segment, le point, l'arc de cercle, etc., pour arriver à démontrer des théorèmes et à résoudre des problèmes. L'algorithmique aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, on suppose que ce sont des algorithmes numériques, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être implémentés dans un code d'ordinateur pour tourner automatiquement sur un ordinateur. On parlera sûrement des différents types d'algorithmes qui existent. Donc, à la différence des algorithmes historiques qui étaient faits pour être résolus à la main, aujourd'hui, ils sont faits pour être résolus par une machine automatiquement. Et ces algorithmes sont dans plein de domaines, autour de nous, même pour faire fonctionner cette radio, il y a des algorithmes qui tournent, et donc on interagit avec eux, parfois souvent sans le savoir, ils nous aident, ils nous assistent, puis on verra qu'ils sont partout, et on a cette tendance parfois un peu déformée de penser que tous les algorithmes sont dans les réseaux sociaux, on verra que c'est pas le cas, mais c'est surtout d'eux dont on parle en général lorsqu'on parle des dérives des algorithmes, et en particulier, donc Bruno aura l'occasion d'en parler, des menaces que ça porte sur la démocratie et sur l'information, la qualité de l'information.
Justement, Bruno Patineau, cette déclaration d'indépendance, elle est faite à quel moment, dans quel contexte et au fond, que voulait son auteur ?
Alors c'est une histoire absolument fascinante, d'abord parce qu'elle naît à un endroit où on pense qu'elle n'aurait jamais dû naître, c'est-à-dire à Davos. Vous savez, dans ces rencontres patronales, donc on est en février 96 et lors d'un dîner, dit-on un peu arrosé de Davos, John Perry Barlow décide de prendre la plume et de répondre d'une certaine façon à un projet de loi sur les télécommunications qui est en train d'être adopté par le Congrès aux États-Unis. Alors, qui est John Perry Barlow ? Si vous m'autorisez 30 secondes pour en parler.
Allez-y,
parce que c'est un personnage totalement américain et totalement fascinant. Il est né en 1947. Il faut le voir. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Il est décédé en 2018. C'est un personnage cabossé, habillé de noir, avec des bagues à tête de mort sur ses phalanges, qui cède souvent d'une canne pour marcher. C'est un personnage qui a été élevé chez les Mormons, dans le Wyoming, qui va avoir une scolarité à la fois brillante et cabossée, la cocaïne, l'héroïne, la drogue, le LSD, il fréquentera Timothy Leary. Il est aussi très proche à la fois des démocrates et des républicains, mais libertaires, et je pense que ça c'est très important qu'on le sache, c'est-à-dire de cette idée libertaire que toute régulation est une entrave à la liberté humaine et que la liberté...
Libertarien, c'est ça.
Libertarien, exactement, libertarien. Et donc John Perry Barlow a beaucoup fréquenté notamment le Grateful Dead, qui est un groupe mythique de la baie de San Francisco, qui est aussi adepte du LSD, mais qui va être perçu par beaucoup de gens dans l'univers numérique comme un peu au début des communautés numériques. Donc Perry Barlow est un intellectuel par ailleurs, je ne vais pas ici parler de tout son parcours, mais il est une des plumes, on va dire, les plus respectées au début des années 90, à la fois du New York Times et du magazine Wired, donc le magazine numérique aux États-Unis, et il a écrit, et c'est là qu'on y arrive, un article tout à fait remarqué en 94 qui s'appelle « Le marché des idées ». Voilà. Et le marché des idées fait référence à Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ce qu'il disait toujours...
Un des pères de l'indépendance.
De la Constitution américaine. Un des pères de l'indépendance qui dit, c'est une citation qu'aimait Barlow, « Le mensonge a besoin de la règle pour triompher, la vérité n'a besoin de personne. » Et donc il y a cette idée, c'est John Perry Barlow, qu'on peut trouver naïve, mais qui est à l'origine peut-être de la, on va dire, première utopie numérique, qui est de dire... Cet univers-là est un univers de pionniers, c'est une terre vierge. Aujourd'hui, une nouvelle génération de pionniers arrive dans ce qu'il appelle à l'époque le cyberespace, donc dans cet univers numérique qui, comme Gérard Courtois l'a dit tout à l'heure, se crée à peine. On est en 96, il commence à se développer à toute vitesse. Et surtout, dit-il, il écrit cette déclaration, on va dire, avec des termes un peu familiers, et il dit, il s'adresse à, je cite, l'hôte invertébré de la Maison Blanche.
C'est Clinton à l'époque.
C'est Clinton à l'époque, et il lui dit... bat les pattes, quoi. Ne viens pas t'occuper du cyberespace.
Laisse-nous tranquille.
Laisse-nous tranquille. Nous sommes en train de construire une nouvelle utopie, sans règles, sans cadre, parce que l'interaction des intelligences, l'interaction des bonnes volontés, l'économie du partage vont donner naissance à une nouvelle prospérité et à une nouvelle démocratie.
C'est un peu une idée rousseauiste au niveau du cyberespace.
Oui, sauf que ce qui est intéressant, c'est John Perry Barlow.
C'est de l'autogestion, c'est l'idée que l'intelligence n'a pas besoin de règles.
En fait, Perry Barlow, dans ses mémoires posthumes, dira qu'il a été très influencé par Teilhard de Chardin. Vous savez, ce jésuite qui a connu son heure de gloire dans la première moitié du XXe siècle en France disait que l'évolution humaine était positiviste d'une certaine façon, qu'on passait d'un premier stade qu'il appelait la géosphère, c'est-à-dire la collaboration des géographies, puis ensuite la biosphère, et ensuite il y aurait à un moment donné la noosphère. Et la noosphère, ça serait la mise en réseau des consciences humaines pour donner naissance à une sorte de conscience universelle, dernière étape avant la révélation chez Teilhard de Chardin. Et chez Perry Barlow, il voit la possibilité d'échanger de l'information en permanence, d'échanger du savoir, d'interagir. Vous me dites quelque chose, je vous corrige, Gérard me corrige, Aurélie me corrige, et peu à peu, collectivement, nous arrivons à nous corriger nous-mêmes et à construire entre nous quatre, premier réseau, avec les auditeurs ou autres, une conscience universelle qui va permettre d'accroître, on va dire, le niveau de développement de l'humanité. Paraît aujourd'hui un peu dingue, pardon de dire comme ça, mais on ne comprend rien des premières étapes de la régulation ou de l'absence de régulation numérique si on ne sait pas le rôle essentiel qu'a joué cette déclaration d'indépendance du cyberespace.
Aurélie Jean, en 96, au moment où il prononce il apostrophe les gouvernants et les chefs d'entreprise à Davos, vous étiez au lycée.
Au collège. Troisième. J'ai calculé, j'étais en troisième.
Et vous n'aviez pas encore écrit le moindre algorithme.
Non.
Quel regard vous portez sur cette utopie fondatrice depuis votre expérience maintenant, qui est très, très au-delà de ce projet initial?
Disons que c'est toujours intéressant de partir. Il y a plusieurs choses. Il y a l'utopie, il y a la position de ce monsieur vis-à-vis du rôle de l'État. Et pour le coup, je suis libérale progressiste, très progressiste, mais alors pas du tout libertarienne, comme on dit. Mais donc l'État, on en a besoin, ne serait-ce que pour créer de la cohésion sociale. Cela étant dit, j'aime beaucoup l'utopie décrite par Barlow, puisqu'en fait, je crois que c'est une utopie, un optimisme dont on a besoin pour avoir de l'espoir et créer de belles choses. Alors, quand on regarde maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On voit bien que le simple fait d'avoir des États et des régulations par pays fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur Internet, puisque de toute façon, à partir du moment où vous agissez, vous parlez et vous propagez, vous interagissez avec des gens, même sur Internet de façon en apparence virtuelle, vous êtes régi par des lois du pays dans lequel vous trouvez. Donc ce n'est pas une indépendance complète. Mais après, on peut aussi se féliciter de pas mal de choses qui ont été créées. Moi, je pense souvent... Alors, 96, ça n'existait pas, mais deux années après, il y a eu Google. 97, 98, Google, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, la première version bêta. Moi, personnellement, ça a transformé ma vie d'étudiante pour aller chercher des documents, des articles scientifiques, puisqu'on a eu Google Scholar. Wikipédia, c'est un très bel exemple de mode collaboratif où on a justement utilisé l'intelligence collective des individus, la modération mutuelle, pour arriver à un consensus vrai, une vérité générée par la contribution de chacun. Donc, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc il y a vraiment deux choses à discuter. Il y a d'une part l'utopie, et j'aime beaucoup les visions utopiques parce qu'elles permettent d'avancer. Et puis il y a cette vision plus politique, pour le coup, de Barlow, pour laquelle je ne suis pas forcément alignée.
C'est d'ailleurs toute la thèse que vous développez, Bruno. Vous avez partagé cette utopie fondatrice et vous avez l'impression qu'elle a été dévoyée, détournée, dites-vous, par des monstres auxquels elle a donné naissance. Alors, c'est qui les monstres et pourquoi ça s'est passé comme ça?
Et pourquoi même est-elle en train de mourir, vous écrivez, Bruno Patino?
En fait, aujourd'hui, l'idée que la simple révolution technologique, qui est anthropologique, numérique, donnerait, j'allais dire, de façon automatique, naissance à une humanité améliorée, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte que ça ne se passe pas automatiquement comme ça. Donc, pour reprendre la question de Gérard Courtois, quel était le défaut de cette utopie ? Encore une fois, oui, bien sûr, que faisant du numérique, moi, depuis le début des années 2000, on a été nombreux à partager. Hein. Perry Barlow a fondé l'Electronic Frontier Foundation, le FF, hein, qui a donné ici naissance à des organisations en France comme la Quadrature du Net ou autres, hein, qui défendent toujours l'absence de régulation, l'absence de cadre, parce que il y a cette croyance fondamentale en la liberté de l'utilisateur et la liberté absolue d'expression. Je pense que là, en fait, c'est toujours le même défaut d'origine. De cette portée, moi je rejoins Aurélie Jean quand on dit que on a besoin de ne pas oublier qu'à la naissance du numérique, il y a cette utopie d'économie du partage et d'intelligence collective. Elles sont toujours là, elles existent toujours, même si elles sont battues en brèche. Elles sont battues en brèche pourquoi ? Parce que entre-temps, le cyberespace, plus personne ne parle comme ça, plus personne ne parle du cyberespace. Donc ça fait, on voit bien que même l'aspect pionnier a cessé d'exister dans la tête des gens. Mais mettons que le cyberespace existe encore, il a été privatisé et centralisé. Et donc il y a juste quelqu'un qui s'est invité au banquet, qui était l'économie.
Il a été confisqué.
Bien sûr, le marché. Donc Clinton pourrait dire, it's the economy stupid, en répondant à Perry Barlow. C'est-à-dire qu'en laissant finalement une interaction réelle avoir lieu, Perry Barlow a oublié qu'à un moment ou un autre arriveraient, j'allais dire, des intermédiaires, qui sont évidemment les GAFAM ou d'autres sociétés, qui simplement ont joué leur rôle, ont développé leur activité, leur chiffre d'affaires, leur marché. Et à chaque fois que vous commencez à développer un marché, vous essayez de le fermer et essayez d'en être maître. Et que donc cette horizontalité rêvée, à chaque fois qu'il y aurait un pouvoir égalisateur du clic, c'est-à-dire que chaque individu, quel que soit son statut, quel que soit, j'allais dire, son âge, quel que soit son pouvoir d'achat, quel que soit son pouvoir politique à un moment ou un autre, serait égal à tout autre individu. Donc cette idée, j'allais dire, égalitaire absolue, a été finalement oubliée, parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment des monstres, je mets des guillemets évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'elles sont monstrueuses dans leurs intentions, mais elles sont monstrueuses par leur taille. C'est-à-dire que sont arrivées des entreprises de la taille de Google, de Meta ou d'autres, Amazon évidemment.
Quelques chiffres pour situer.
Qui ont des capitalisations boursières qui sont supérieures à celles d'un État de taille moyenne, si vous voulez. Donc vous avez des capitalisations boursières colossales et des capacités évidemment à agir comme acteur économique dans un capitalisme dérégulé, de la façon, j'allais dire, classique du capitalisme. Capitalisme dérégulé, c'est-à-dire avec centralisation, privatisation, prédation.
Au fond, ça a été la victoire d'une forme de capitalisme innovant.
Ça a été la victoire du marché absolu non régulé. Donc, on peut se dire, pour certains, dont je suis, on revit en ce moment, enfin c'est ce que j'essayais d'écrire dans Tempête dans le bocal, on revit en ce moment peut-être le chapitre qu'on a vécu au début du capitalisme industriel, c'est-à-dire ça se crée, une innovation technologique se crée, des géants arrivent, comme ils n'ont aucune limite formelle qui leur est adressée, eh bien évidemment, ils commencent à concentrer une part de pouvoir économique et de pouvoir politique qui à la fois tue toute concurrence et puis évidemment n'est pas positif pour les vies individuelles qui sont les nôtres. Puis à un moment donné arrive la régulation, les contre-pouvoirs ou autres, et je pense qu'on est en train d'essayer en ce moment de donner naissance à on va dire une économie numérique régulée, mais on est bien loin.
Avant d'en venir là, expliquez-nous quand même, Bruno Patino, ce que vous décrivez très bien, c'est-à-dire le phénomène, ce que vous appelez la captologie, c'est-à-dire le ressort intime de cette puissance qui s'est construite en 20 ans.
Une partie des puissances qui se sont inscrites, parce que ce ne sont pas les seules, on les vit au quotidien parce que notre temps est absorbé. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui, il y avait le dernier chiffre qui m'a frappé, c'est celui en provenance de Grande-Bretagne, disant que en Grande-Bretagne, les gens passent 11 heures par jour en moyenne devant les écrans. Donc quelque chose est arrivé quand même, quelque chose nous est arrivé ces 30 dernières années, entre des gens qui passaient en moyenne 2h30 par jour devant un écran passif, au-delà de ça qui était la télévision, et qui passent maintenant 11h par jour, on voit bien qu'une partie de leur temps a été absorbée. Et donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans une certaine partie de ces plateformes, celle qui repose sur un chiffre d'affaires publicitaire, le chiffre d'affaires publicitaire, il naît simplement en captant votre attention. C'est-à-dire que quand j'ai du temps d'attention, ou comme disait Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, du temps de cerveau disponible de votre part, je peux vous proposer de la publicité. Donc pour ces grandes entreprises, l'enjeu a été à un moment donné de capter le plus de temps possible. Et pour cela, elles ont effectivement développé un certain nombre d'outils que certaines d'entre elles ont appelé la captologie. À Stanford, le mot est utilisé. Et la captologie, ça utilise à la fois des connaissances des neurosciences, évidemment la science algorithmique dont Aurélie va parler mille fois mieux que je ne saurais parler, pour à un moment donné nous rendre dépendants, je mets des guillemets aussi, parce qu'on ne parle pas d'héroïne là. Mais disons...
C'est de l'addiction quand même.
Oui. Une certaine forme d'addiction aux écrans, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le poser, alors que bien la raison nous dit qu'on devrait le poser. Et ces outils ont été utilisés de façon à faire accroître le chiffre d'affaires publicitaire de ces sociétés.
Mais les algorithmes, c'est pas simplement un capitalisme de contrôle, c'est quand même autre chose.
Absolument. Alors déjà, moi, je pourrais écouter Bruno Patino pendant des heures. Donc, je propose qu'on ait une émission où que Bruno parle de ce sujet, parce que je trouve ça passionnant.
Non, surtout pas.
Mais surtout pas. Oui, alors en fait.
Surtout qu'il a une vision assez pessimiste en réalité.
Non, pas exactement. Pour bien connaître Bruno, je suis pas d'accord. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment lire ses livres et lire entre les lignes pour comprendre en fait qu'il met en relief.
Nous avons fait.
Voilà, exactement. Oui, je le sais. Et pour les auditeurs, parce que justement, il met en avant une vision un peu plus noire. Mais en tout cas, il décrit, donne la grille de lecture qu'il faut pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et il donne toujours une heure d'espoir en expliquant comment il faudrait faire. Donc les algorithmes, en fait, c'est intéressant parce que le mot algorithme est très stigmatisé aujourd'hui. Et les gens qui en développent, dont je fais partie, sont très stigmatisés également. Et c'est pas facile, on va dire.
Le sentiment un peu commun, c'est que les algorithmes sont coupables d'un certain nombre de dérives.
Oui, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les médias disent, c'est ce que les politiques disent, et c'est une erreur.
Alors, l'algorithme n'est pas coupable.
Puisque,
mais alors, c'est vous qui êtes coupable de le développer.
Tout à fait. Nous, au sens, je vous donnais qui est derrière nous, en fait. Donc, l'algorithme n'est pas coupable, qui n'est pas une personnalité juridique, ni morale, ni physique. Donc, selon la loi, il n'a pas des droits, il n'a pas de devoirs, pas d'obligations. Il ne peut pas être puni. Maintenant, il y a toujours des humains derrière un algorithme. Des humains pour décider de le développer, des humains qui le développent, des humains qui le testent, des humains qui le vendent, et des humains qui luttent. Utilise. Il faut bien comprendre cette chaîne en fait, de vie d'un algorithme. Cela étant dit, il y a par exemple, donc, Bruno parlait de la captologie, donc il y a différents types d'algorithmes pour aller capter votre attention et vous retenir sur ces outils, en particulier les réseaux sociaux ou les plateformes à la demande de contenu vidéo, audio et autres. Ce qui va se passer, c'est qu'on a différents types d'algorithmes, comme par exemple l'algorithme de catégorisation et de suggestion. On va catégoriser les utilisateurs en fonction de vos similarités statistiques dans vos comportements. Et l'idée, c'est de vous suggérer en retour un contenu qu'une autre personne de votre catégorie a aimé en mettant en théorie l'hypothèse, donc qui est vrai dans la plupart du temps, que ce contenu va vous plaire en retour. Ça a plein d'inconvénients, que ce soit les effets bulles théorisés par Elie Pariser qui fait en fait qu'à la fin vous ne voyez le monde que sous le contenu de cette catégorie, mais aussi donc ça implique une propagation des fausses nouvelles, des théories du complot et autres, mais ces algorithmes de catégorisation ou de suggestion ne sont pas mauvais en soi, c'est parce qu'on a décidé de les développer ainsi, on a décidé de les utiliser ainsi. Et l'effet bulle est par ailleurs quelque chose qu'on peut éviter, mais qu'en fait, que c'est la plupart de ces plateformes laissent faire, parce que comme l'a dit Bruno, en fait, ça conforte un modèle économique.
C'est plus rentable.
Exactement.
Mais voilà. On pourrait dire en même temps que l'algorithme permet de donner une plus grande force aux idéologies dominantes.
Absolument. Alors, dominante, c'est-à-dire ?
Au sens où c'est le sens commun qui, à un moment donné, va dominer et qui va, par exemple, amener des consommateurs à acheter plutôt ces choses-là plutôt qu'une autre.
Alors, oui et non. Encore une fois, cela dépend comment l'algorithme est conçu. On pourrait croire que dans un monde idéal, si on a des algorithmes qui sont bien conçus, on va tendre, de la même manière sur Wikipédia, on va tendre vers un consensus, une vérité absolue, entre guillemets, si elle existe. Cela étant dit, c'est pas ce qui se passe, parce que les algorithmes, dans la manière dont ils sont conçus et développés, utilisés, déployés sur ces plateformes, on a une perte de hiérarchisation traditionnelle de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met au même niveau l'information qui est la Terre est plate et une information géopolitique vraie sur la guerre en Ukraine, par exemple. D'accord? Et donc ça crée du coup de la confusion. L'effet bulle rajouté à cela va faire que les gens vont croire que ce qu'ils voient par un biais de confirmation est vrai. Donc je reprends la Terre est plate. Si vous suivez des gens qui disent que la Terre est plate et que vous allez commencer à aimer et commenter des posts qui disent que la Terre est plate, vous allez tomber sur beaucoup de contenus qui vous disent pourquoi la Terre est plate. Donc on a un biais de confirmation. Donc j'ai envie de dire non, dans la manière dont les algorithmes sont faits, développés, testés aujourd'hui, certainement pas. Et c'est toute le risque et la menace en fait. Mais encore une fois, et c'est ça que je veux dire, et je sais que Bruno est aligné avec moi, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'il faut juste bien faire les choses.
Est-ce que vous êtes aligné, Bruno Patino?
Avec Aurélie, toujours.
Toujours.
Mais en même temps, vous êtes très pessimiste, Bruno Patino, sur la manière dont toute cette mécanique a, et Aurélie Jean le disait à l'instant, a installé le triomphe, ou en tout cas la puissance du complotisme, des fake news, des effets de bulles tribaux, si je puis dire, etc.
Alors, lucide, je pense, c'est-à-dire dire qu'à un moment donné, cette économie de l'attention a installé d'un point de vue individuel la dépendance et d'un point de vue collectif ce qu'on pourrait appeler la polarisation de l'espace public ou, j'allais dire, le versant émotionnel de nos démocraties que j'appelle de temps en temps émocratie, tellement c'est fondé sur l'émotion. Mais pessimiste, non. Pourquoi ? Parce que je suis absolument convaincu que... les dérives que vous mentionnez sont avant tout dues non pas à une technologie, non pas à des formules mathématiques, mais à un modèle économique. Donc je suis absolument convaincu aujourd'hui que les dérives les plus extrêmes de la société numérique auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas dues à la technologie elle-même, mais on va dire au déploiement sans limite du modèle économique de l'économie de l'attention. Et je pense qu'un modèle économique, ça se régule plus facilement qu'une technologie. Et donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, au sein des pouvoirs politiques notamment, la conscience, petit à petit, qu'une intervention est nécessaire, non pas pour démanteler ces sociétés, mais pour, on va dire, limiter d'une certaine façon l'action. Et quand on voit arriver l'idée de responsabilité algorithmique, par exemple, ou de responsabilité tout court, on est dans ce moment-là, de définition d'une responsabilité. En fait, nous ne pouvons pas aborder ces GAFAM, peu importe comment on les appelle, comme des sociétés, j'allais dire des entreprises comme les autres. Vous voyez bien, même l'Europe le dit aujourd'hui, dit qu'il y a des responsabilités particulières pour des sociétés qui sont qu'elle appelle systémiques. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on tourne tous autour de cette conception. Que sont ces entreprises-là? Ce sont des choses différentes. Certains disent transnationales, d'autres appellent ça des entreprises souveraines, comme si c'était des États. Certains États nomment même des ambassadeurs auprès de ces entreprises-là. Donc, un, quelles sont-elles vraiment? Ben, tout le monde travaille là-dessus. Et deux, quelle est leur responsabilité et comment elles s'exercent? Donc, on est dans ce moment-là, je crois, franchement, de recherche à la fois de définition de l'objet et de définition de la responsabilité avant d'arriver. Alors, on est très, très loin de la déclaration du cyberespace, hein, qui disait, ben non, il n'y a aucune responsabilité là-dedans. On est à rebours de cette déclaration d'indépendance du cyberespace.
C'est ce qu'on entend dit, les principales plateformes. C'est pas notre affaire s'il y a des détournements. Mais
c'est pour ça
dérives.
Que, si vous voulez, le paradoxe de cette déclaration d'indépendance du cyberespace, qu'à titre personnel j'adore et j'encourage les auditeurs à lire, parce que c'est un texte d'une force réelle, mais c'est que ce texte a été utilisé notamment par ces plateformes. Ce texte a donné naissance à ce qu'on a appelé aux États-Unis la section 230. La section 230, c'est ce qui est à l'origine de l'irresponsabilité des plateformes. On dit, bah nous, on est neutre. On n'est qu'un truc technologique, on n'a pas de responsabilité éditoriale ni autre. Donc, cette irresponsabilité-là aujourd'hui, elle est, je crois, aujourd'hui battue en brèche par tout le monde et je m'en réjouis et c'est en cela que je ne suis pas du tout pessimiste.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors, Aurélie Jean, justement, tout à l'heure, vous avez employé le mot d'État. D'un côté, on avait ce rêve un peu anarchiste,
plus de barrières, plus de frontières, libertarien. Et puis vous avez dit tout à l'heure, mais moi en réalité je suis pour une régulation minimale et il y a un rôle des États. Et comment ce rôle des États peut se faire avec justement cette technologie qui est quand même très difficile à appréhender pour un État?
Alors il y a deux choses, il y a la régulation et la confiance que l'État doit avoir en ses acteurs. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Mais concernant la régulation, c'est possible, on a réussi à réguler la collecte, le stockage et l'usage des données à caractère personnel à travers le texte européen, le RGPD, qui est le texte de régulation de l'usage des données à caractère personnel.
Le règlement général
de protection des données.
Voilà. RGPD.
Et qui a d'ailleurs inspiré le texte américain, le CCPA, donc un texte californien reconnu dans plusieurs États des États-Unis.
Mais pas encore généralisé.
Ça va venir. Je serais étonnée que ça ne vienne pas à l'échelle fédérale. Je fais confiance au Congrès. J'espère avoir raison de leur faire confiance. En tout cas, la régulation, elle a existé pour les data. Donc, elle a, quelque part, en régulant la partie data, la partie données à caractère personnel, on a régulé une partie de la partie du sujet algorithmique, parce qu'un algorithme, il est construit et il fonctionne sur des données. Maintenant, il faut aller plus loin et la France et les États-Unis d'ailleurs réfléchissent, discutent, travaillent aujourd'hui sur des textes sur ce qu'on appelle l'IA, un mot que j'utilise très peu, l'intelligence artificielle, je préfère parler d'algorithme et de données. Ces textes en fait sont importants, mais il faut surtout bien cadrer le sujet, puisqu'à la différence des données à caractère personnel où les États ont beaucoup d'expérience, puisqu'en fait la France a écrit en 78 un texte informatique et liberté, puis adapté en 95 sur des données transportées avec l'arrivée d'Internet, puis
qui a donné naissance le à la
RGPD.
CNIL.
Oui, la CNIL, absolument.
La Commission nationale d'informatique.
Absolument. Et qui a inspiré le RGPD. On a une connaissance législative très forte et technique des données en général, de la science de la donnée. L'algorithmique est différent, c'est une science beaucoup plus intangible. C'est une science qui évolue de manière accélérée.
Pardon, quand vous dites intangible, ça veut dire quoi?
Elle n'est pas. Quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, une data, une donnée, une feuille de papier avec des informations dessus est une donnée. Les gens vont donner des exemples très facilement de données. Ils vont vous dire, c'est une photo, c'est un chiffre, ma température, mon poids. Ça va être des choses comme ça. Ou la couleur de mes cheveux. Lorsqu'on parle d'algorithme, très vite, les gens, il y a une intangibilité permanente et une omniprésence quand même assez forte, où les gens, en fait, sont un peu perdus, ne savent pas forcément décrire, donner des exemples concrets d'algorithmes. Et en général, ils se ramènent aux réseaux sociaux, ce qui déforme la réalité aussi. Et donc, partant de ce principe, on a des législateurs, des parlementaires et des politiques qui maîtrisent beaucoup moins bien cette science, qui est une science qui avance vite. Et donc, moi j'ai vu dans les premiers textes, en tout cas sur ce sujet, j'ai vu un positionnement un peu plus conservateur de la part de l'Union européenne vis-à-vis de cette science algorithmique, de comment il fallait la réguler, en comparaison avec la science de la data. Aussi, on ne peut pas réguler un algorithme strictement parce qu'on ne peut pas l'évaluer entièrement. Ce qu'il faut faire, il faut davantage, moi je fais très attention aux mots qu'on utilise, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité de l'algorithme, un algorithme n'est pas responsable, eh bien on ne peut pas auditer, on ne peut pas réguler un algorithme. Ce qu'on fait en pratique, et c'est ce que l'Europe essaie de faire, c'est d'aller réguler les bonnes pratiques, ce que moi j'inscris dans la gouvernance algorithmique, les bonnes pratiques de conception, de développement, de tests, de ce qu'on appelle de backtesting, donc de tester l'algorithme une fois qu'il est utilisé parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs.
Mais quelle serait la sanction de la mauvaise pratique?
Comme dans le RGPD. Le RGPD, d'ailleurs contrairement au texte américain, le RGPD a des sanctions extrêmement dures, financièrement parlant, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture en fait de la société, si la société en question n'est pas conforme aux 99 articles en fait du RGPD. Donc les sections, les
là punitions, c'est le grand retour de l'État d'une certaine manière.
Voilà, mais ça j'ai envie de dire c'est normal. Par ailleurs, il y a des sujets où les États parfois, où les politiques je trouve sont un peu ambiguës. Par exemple, on parle beaucoup. Moi, je défends l'anonymat, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour plein de raisons. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des politiques s'acharner sur l'anonymat en disant il faut trouver un moyen d'éliminer cet anonymat parce que c'est la source de toutes les haines et les harcèlements autres.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus.
C'est faux.
Voilà. Parce qu'en réalité, si déjà on s'occupait de tous les comptes qui ne sont pas anonymes et qui font du harcèlement, la propagation de fausses nouvelles, de la théorie du complot, ce serait déjà une bonne nouvelle.
Sauf et donc, il n'y a pas suffisamment de sanctions, en fait, et de régulation.
Ce n'est pas un problème de régulation, la loi existe pour le harcèlement.
Oui.
Sauf qu'il faut, avant de réfléchir... Pour moi, le parler de l'anonymat, c'est une manière de dévier la réflexion qui doit porter... D'abord, sur comment appliquer la loi sur ces réseaux. Il y a déjà du harcèlement fait par des gens qui ne sont pas anonymes. Donc, j'ai envie de dire, déjà, occupons-nous de ça. Et ensuite, on s'occupera d'un débat sur l'anonymat.
Bruno Patino, vous vouliez réagir sur la question de l'anonymat.
Ah non, je suis tout à fait d'accord. Si vous faites toutes les analyses qui sont faites, par exemple, sur les fausses nouvelles, vous verrez toujours qu'une fausse nouvelle, on va dire, elle circule dans ce que les politistes appellent les caves, c'est-à-dire dans des réseaux un peu, j'allais dire, un peu limités. Et puis, à un moment donné, ça passe, si j'ose dire, dans la conversation générale, parce que y a quelqu'un qui va porter le message de la fausse nouvelle ou la blanchir. C'est jamais quelqu'un d'anonyme. C'est la plupart du temps quelqu'un d'installé, dont le nom est connu, voire même dont l'action est connue, et souvent dans le champ politique. Donc, dire que les fausses nouvelles sont propagées par des anonymes
non,
est totalement faux.
Pas les fausses nouvelles, mais les discours de haine, c'est-à-dire, exemple, le harcèlement. On voit, par exemple, des personnes, des chercheurs actuellement, qui sont particulièrement harcelés par des comptes anonymes et qui, du coup, sont obligés de faire des procédures pour essayer d'obliger les plateformes à réguler un peu.
Mais je vous assure que on n'arrive déjà pas à gérer et à punir les gens qui ne sont pas anonymes et qui font ce genre d'actes. Donc, il ne faut pas dévier le sujet, en fait.
Surtout, moi, je crois toujours que, paradoxalement, c'est cette idée que le mal, entre guillemets, viendrait de l'extérieur.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire cette idée de dire, pour réguler les plateformes, vous savez quoi ? En fait, les plateformes, et c'est un discours tout à fait, j'allais dire, soutenu par un certain nombre de plateformes, de dire, en fait, la plateforme est un outil parfait. Et si, à un moment donné, ça fonctionne mal, c'est qu'il est corrompu par l'extérieur. Alors, c'est il est corrompu par des gens qui sont anonymes.
Par les mauvais acteurs.
Par les mauvais acteurs, les bad actors, ouais. comme disent nos amis les politistes. Donc, les mauvais acteurs. Donc, les anonymes, les robots, etc. Tout ça est vrai.
C'est intéressant.
Mais à un moment donné, il faut voir aussi, on en revient à la structure de l'économie de l'attention, que ces plateformes, à un moment donné, il y a certains messages qu'elles amplifient, qu'elles accélèrent, et d'autres qu'elles ralentissent et qu'elles passent volontiers sous silence. Et c'est ce phénomène d'amplification et d'accélération qu'il faut étudier. Et cette amplification et cette accélération, elle est en général faite non pas pour des raisons idéologiques, mais simplement pour des raisons, encore une fois, d'attirer l'attention. Je vais vous donner une anecdote qui date maintenant d'il y a 3 ans ou 4 ans, les auditeurs mais parce qu'elle est très démonstrative. À un moment donné, vous avez justement une chercheuse qui s'est amusée sur Facebook à poster un message totalement diffamatoire sur Mark Zuckerberg. Un message épouvantable sur le patron de Facebook. À l'époque, ça s'appelait pas Meta. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Ce message a été viralisé à toute vitesse sur Facebook. Il a été poussé par l'algorithme même de Facebook. Ce qui démontre bien que ça n'est pas quelqu'un qui est aux manettes et qui pilote pour des raisons idéologiques, mais simplement parce que le message étant outrancier et diffamatoire, il a attiré évidemment énormément l'attention des gens qui étaient sur Facebook, qui l'ont à leur tour relayé, partagé. Comme il était beaucoup relayé, partagé, l'algorithme l'a encore amplifié et accéléré, et tout le monde l'a vu. Et donc, ce qui montre bien que, si vous voulez, c'est le fonctionnement interne. Et je rejoins encore une fois Aurélie Jean, vraiment, l'histoire de l'anonymat est une fausse histoire. D'abord parce que, la plupart du temps, pour s'inscrire sur un réseau social, il faut donner son identité. Et ce qui existe, c'est le pseudonymat. C'est-à-dire que vous pouvez exister sur un réseau social, non pas en étant anonyme, mais sous pseudonyme. Ce qui permet, et tous les sociologues, et notamment les sociologues des plus jeunes, le montre. Parce que on parle des réseaux sociaux comme si c'était des outils. Évidemment, il y a tout ce qu'on connaît. Mais les réseaux sociaux existent aussi sous forme de socialisation. Ce sont des outils très importants pour les plus jeunes, pour se socialiser. Pour faire, rencontrer des gens qui partagent à la fois vos problèmes, vos soucis, vos identités ou autres. Et que pour les plus jeunes, il est extrêmement important de pouvoir le faire sous pseudonyme.
Une petite parenthèse, Bruno Patino. Vous évoquez Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Vous en faites un portrait, mais alors terrible dans votre livre. C'est quoi ? C'est l'anti-modèle ? C'est l'anti-Barlow ?
Mais non, oui, c'est l'anti-Barlow, ça c'est clair. Mais Mark Zuckerberg, moi j'en fais un portrait dans Tempête dans le bocal, c'est surtout, et encore une fois, aujourd'hui on ferait pratiquement plus le même portrait. Parce que ce qui m'avait frappé, c'est que moi je suis pas du tout un familier et je l'ai rencontré que 2 fois. Mais ce qui m'avait frappé, c'est l'écart, si vous voulez, à quelques années d'écart, je crois qu'il y avait 8 ans d'écart ou 9 ans d'écart. La première fois, vous rencontrez effectivement quelqu'un qui a encore l'apparence d'un collégien. Qui a l'air tout à fait accessible, qui partage un café, etc. Et les 9 ans plus tard...
Qui est au Starbucks de l'Opéra.
Voilà, exactement. Exactement, c'est tout à fait juste. Et personne ne le remarque vraiment. Et les 9 ans plus tard, c'est quelqu'un de totalement médiatraîné, presque comme un robot. Il a l'air d'un robot et il incarne à ce moment-là le grand méchant de l'Internet. Il a été remplacé depuis. Hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'écris Tempête dans le bocal et maintenant, le grand méchant de l'Internet, c'est devenu Elon Musk. Ouais. Mais à l'époque, c'est lui le grand méchant de l'Internet. Moi, je dis toujours, c'est quand même Vous savez, les développeurs de Facebook avaient ces t-shirts, cette espèce de slogan qu'ils utilisaient toujours, comme l'utilisent beaucoup, comme le Seorelli, les développeurs de la Silicon Valley, mm-hmm. « Move fast and break things ». Bougez vite et cassez des choses. Moi, ce que je crois, c'est que oui, Facebook, bien sûr, a bougé très vite et a cassé beaucoup de choses. Le problème, c'est que dans les choses qui ont été cassées, il y a quand même notre démocratie.
Mais donc, la démocratie, il y a un risque de dictature des algorithmes, Aurélie Jean ?
C'est alors, quelque chose... je vais reprendre... Non,
c'est une expression que vous employez à un moment, hein.
Moi, je parle de dictature des algorithmes. Alors, contexte, alors après, il faut toujours contextualiser parce que sinon, c'est un peu. Il y a une dictature des algorithmes dans le sens où les algorithmes, lorsqu'ils sont mal développés, utilisés, alignés avec un modèle économique fortement controversé qu'a expliqué Bruno Patino, en effet, ils mettent en danger la démocratie. Ils enlèvent toute hiérarchie pertinente de l'information qui est pour moi est criminelle en fait pour la bonne santé démocratique d'un débat. Ou d'un pays, d'une nation, peu importe. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec la montée du populisme, on l'a vu. Et donc oui, ce n'est pas la dictature strictement, ce ne sont pas les algorithmes en fait qui vont créer cette dictature, mais ce sont les gens qui décident de les développer ainsi et de les utiliser ainsi, parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi des gens qui savent pertinemment comment ces algorithmes fonctionnent sur les réseaux et qui vont du coup les utiliser pour propager consciemment des mensonges, des approximations. On l'a vu pendant la campagne et puis on le voit même dans tout débat politique.
Enfin, le scandale Cambridge Analytica,
par exemple, pour voilà.
La campagne de Trump.
Mais même au quotidien, encore aujourd'hui, moi, je suis tous les politiques. C'est quelque chose que je fais parce que justement, je veux pas être enfermée dans une bulle et je veux voir les contenus de tous les politiques. Ce qui m'arrive souvent d'être un peu choquée par les propos tenus et surtout, plutôt parfois étonnée par cette confiance que beaucoup ont à dire un peu n'importe quoi sur tout, en fait, et n'importe quoi. Et ça me fait peur parce que ce sont des gens, comme l'a dit Bruno, ce sont des gens qui ont...
Twitter, de ce point de vue-là, est terrible.
Terrible, terrible. Et c'est vrai, mais j'ai envie de dire, vous savez, je dis tout le temps, il faut... Alors, excusez-moi, on parle des politiques, là, mais ça, c'est tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui ont une voix sur Twitter, qu'on entend et qui sont des personnages publics. Mais ce sont quand même des gens qui doivent être irréprochables. Vous savez, à partir du moment, enfin, c'était dans Spider-Man où l'oncle de Spider-Man disait, mais en français, c'est quoi? C'est avec le pouvoir vient les responsabilités. Mais en fait, c'est pareil. Quand vous avez un peu de pouvoir, vous êtes une personne publique, les gens vous écoutent et vous lisent, vous avez le devoir, l'obligation morale, en tout cas, d'être irréprochable. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux gens. Et on essaie à tout prix, comme l'a très bien dit Bruno, j'avais jamais vu ça, de déplacer cette sorte de centre d'inertie en disant c'est la faute de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, l'anonyme, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est.
Je prolonge d'un mot sur le risque, entre guillemets. J'enlève
bien
dictature.
Hein, non, mais je vous en prie, allez-y.
Il est d'autant plus aigu avec l'intelligence artificielle dite générative, ChatGPT, qui produit du texte, idem sur ce qui permet de produire des images, des photos, par exemple, hyper réalistes, où on peut se méprendre, penser que c'est une vraie photo, en réalité, c'est une construction. Il y a une part de risque dans...
Alors,
soit pour l'emploi, soit pour la fiabilité des choses.
Alors, c'est un sujet très complexe. Je ne vais pas parler d'emploi, je vais me restreindre à l'aspect informationnel. Déjà, les IA génératives ne sont pas nouvelles. Elles ont été lancées en 2017. J'en ai fait moi-même un peu quand j'étais à Bloomberg où je générais des articles de presse automatiquement. Mais c'était marqué « Automated News », donc « Actualité automatique ». Et ça permettait de soutenir le journaliste économique qui lui avait plus de temps pour faire un vrai article avec une forte analyse. Et j'ai pu augmenter son taux de lecture. Donc c'était pour la bonne cause. Plusieurs choses. Donc c'est pas nouveau. La nouveauté aujourd'hui, elle réside principalement dans l'interface graphique qui s'est fortement améliorée et qui donne l'impression aux gens qu'ils discutent, qu'ils échangent avec un être humain. Ce qui est faux. Et du coup, les gens ont tendance à faire confiance en la machine alors que la confiance, c'est un sentiment qu'on a envers un humain uniquement. À cela, on ajoute un autre risque que vous avez évoqué, qui est la pertinence du contenu, la véracité du contenu fourni. OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT et donc de l'algorithme GPT, on a la quatrième version, refuse de dire sur quelle base de données ils ont entraîné l'algorithme. Et on serait en droit d'exiger de connaître les bases de données, donc l'ensemble des informations.
C'est là où vous appelez à des chartes éthiques, Aurélie
Jean. C'est là où j'appelle, moi, à une certaine transparence lorsque ça engage des choses comme le débat démocratique ou l'information. Et par exemple, OpenAI, qui est certes à but lucratif, mais qui quand même a une ambition beaucoup plus noble de partager les bases de données, en tout cas de dire, sans donner les données brutes, mais de dire d'où viennent les informations, les données, ce serait, à mon avis, ça aurait du sens. Parce qu'on le voit, le ChatGPT peut vous fournir des réponses faussées, erronées, approximatives, parce qu'elles viennent d'Internet. Et Internet n'est pas vrai sur tout, on le sait. sait.
Internet. Qu'est-ce qui alimente le tuyau, quoi.
Voilà, exactement. Et ça, c'est important. Et puis surtout, ça pour le coup, Bruno il parle beaucoup de ça. C'est l'information que vous recevez, en fait, elle n'est pas hiérarchisée forcément. Elle est hiérarchisée selon un mode de hiérarchisation qu'Internet a induit par les personnes qui l'utilisent. Et donc, les gens qui vont regarder ces informations, et en particulier les plus jeunes, qui eux vont vivre avec ça et sont nés, pour certains vont naître avec ça, doivent avoir un regard critique sur l'information qu'ils observent. Juste pour un petit information, j'ai un stagiaire en ce moment qui finit bientôt, enfin voilà, et qui c'est intéressant parce que je lui ai demandé de faire des recherches et il est venu vers moi en me disant, je lui ai demandé toutes ses sources et dans ses sources il y avait ChatGPT et il a 20 ans et donc je me suis dit bah voilà, c'est, j'aurais pas eu le réflexe et lui il a eu et il faut que je l'aide à décrypter l'information qu'il reçoit.
Vous évoquez d'ailleurs l'un et l'autre la question de la confiance. Vous, Aurélie Jean, la confiance dans la fiabilité des dispositifs numériques et la capacité à en comprendre au moins la logique pour les utilisateurs. Et vous, Bruno Patineau, la confiance entre les acteurs du réseau. Ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est quoi? C'est une question démocratique, fondamentale.
Fondamentale, je pense que Aurélie l'a dit d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'aime pas le mot de dictature parce que la dictature suppose un maître. D'accord, qui est un maître, et c'est une dictature sans maître en réalité, même si
ça peut être les pires des dictatures
avec plusieurs maîtres.
Moi, je pense que le pire, c'est que c'est une dictature sans maître, c'est-à-dire que en réalité, je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est encore une fois une grande menace sur ce qu'Habermas appellerait l'espace public, en réalité, qui est quand même à la base des démocraties modernes, on va dire des démocraties...
Du contrat social.
Du contrat social, en tout cas de la démocratie moderne dans sa forme post-18e siècle. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, entre effectivement un espace informationnel à la fois saturé, dans lequel il est difficile de faire preuve de discernement, avec un espace public dans lequel, évidemment, les messages sont mal axés en tous sens, avec une prime donnée à l'accélération et à l'amplification de ce qu'il y a de plus émotionnel. Dans un espace public où, effectivement, avec les IA génératives, vous allez avoir... Moi, je rejoins l'analyse de religion. Pour moi, la première chose que vous allez avoir, c'est une saturation des messages, en réalité. Et donc vraiment, la problématique aujourd'hui, c'est que vous avez à peu près tout, on va dire, toutes les institutions qui participent à l'espace public qui sont aujourd'hui objets de défiance. Même Cambridge Analytica, quand vous regardez bien le scandale...
En deux mots, vous nous racontez le...
Cambridge Analytica, c'est d'abord, il y a un scandale, j'allais dire, en termes de sécurité de données, puisque Facebook va vendre ces données à un organe, Cambridge Analytica, qui va ensuite utiliser ces données pour essayer de peser sur la... qui va réussir à peser d'ailleurs sur la première élection de Donald Trump. Et quand on regarde bien...
En ciblant des populations très précises.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous regardez bien ce qu'ils vont cibler de façon extrêmement précise, c'est les gens dont ils pensent qu'ils pourraient voter démocrate et qu'ils vont décourager, qui vont essayer de décourager quant au fait de leur dire n'allez pas voter, ça sert à rien, ou c'est pas possible, ou vous n'y arriverez pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils utilisent l'algorithme, en l'occurrence, non pas, j'allais dire, pour augmenter la confiance envers Trump, mais pour augmenter la défiance envers Hillary Clinton. Et donc, vous voyez bien aujourd'hui que ces outils-là sont des outils, effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit par Aurélie Jean, qui attaquent la confiance. Et la confiance, comme vous l'avez dit, c'est à la base de notre contrat social. Et je crois qu'aujourd'hui, le principal, j'allais dire, défi politique et presque anthropologique qui nous est posé par la façon dont s'organise aujourd'hui la société numérique, et encore une fois, j'ai bien dit aujourd'hui, parce que rien ne dit que ça doit durer comme ça, c'est un problème de défiance généralisée.
Et en même temps, les vraies dictatures, au sens matériel du terme, essayent de contrôler de plus en plus l'ensemble de cet espace numérique.
Ah oui.
Alors même qu'à un moment donné, on a vu pendant les printemps arabes, il y a une capacité de mobilisation et de circulation de l'information, justement grâce à ces espaces.
Parce que ces dictatures ont compris ces dictatures ont compris que ces outils étaient aussi des armes, entre guillemets. Je n'aime pas du tout la métaphore filée du combat ou de la guerre quand on parle du numérique, mais ce sont des leviers de puissance économique importante et je pense qu'on peut citer la Chine dans ces pays. Et donc, ils ont clairement compris que l'algorithmique, l'intelligence artificielle, peu importe le mot que vous mettez derrière ça, était un levier de puissance économique importante et donc pour avoir une place importante dans le monde. Et encore une fois, j'évite de prendre la métaphore filée de la guerre, mais c'est un peu ça.
Bien sûr, c'est un peu ça, mais il y a un aspect positif, peut-être dans l'esprit de Barlow, anarchique, c'est-à-dire l'idée que des gens, à partir de l'Internet, peuvent se rassembler et peuvent se mobiliser, toujours.
Mais bien sûr, mais ça a toujours existé. Et ça existe toujours. Alors après, comme vous l'avez très bien dit, ce sont des outils possibles de déstabilisation des pouvoirs. Alors, dans le cadre des dictatures, c'est pour ça que vous essayez à tout prix de contrôler, puisque c'est un outil qui fait que des solidarités collectives peuvent exister à un moment donné, sont ensemble et déstabilisent. Après, donc, quand vous avez un outil qui déstabilise le pouvoir dans un pouvoir autoritaire, illibéral ou dictatorial, évidemment, on voit ça comme une bonne chose. Après, quand c'est des outils de déstabilisation du pouvoir dans un pouvoir démocratique, on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me suis permis d'appeler ça le cinquième pouvoir parce que, encore une fois, c'est un pouvoir de déstabilisation. Alors, jusqu'à une certaine limite, c'est très bien en démocratie.
Plus que de construction?
Oui, je le crois. En tout cas, sur la sphère politique aujourd'hui, oui. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on caricature, parce que je vais me permettre de dire ça, parce que c'est important. Si vous regardez bien, quantitativement, les messages de haine et de désinformation, c'est moins de 5% des messages qui sont sur les réseaux sociaux.
Mais ce sont les plus viraux,
voilà.
Si je puis dire.
Le problème n'est pas la quantité de messages, parce que l'extraordinaire majorité des messages sur les réseaux sociaux, c'est des messages amicaux ou des messages d'information ou des messages de solidarité collective. Un tel appareil, mobilisons-nous, 50 sacs de couchage pour les gens qui viennent d'arriver ici, etc. C'est ça les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, à cause du modèle économique qui est le leur, l'amplification et l'accélération, elle est faite sur des messages, j'allais dire, qui engagent l'émotion du plus grand nombre de gens possible.
Le capitalisme n'est pas spontanément vertueux, c'est ça que vous essayez de nous dire.
Ça a l'air de vous surprendre. Mais oui, c'est évidemment, si vous voulez. Et donc, encore une fois, il faut faire la différence entre les messages qui existent et les messages auxquels nous sommes exposés. Et entre les messages qui existent et les messages auxquels nous sommes exposés, ben, il y a à un moment donné un outil. Et pour le moment, l'outil, parce que l'algorithme, on passera jamais un algorithme par les armes, Aurélie Jean a raison. L'algorithme, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc à un moment donné, on a dit à cet outil, maximise-moi le chiffre d'affaires publicitaire possible, s'il te plaît.
L'homme n'est pas remplaçable.
On a évoqué différents outils ou démarches de régulation, que ce soit l'autorégulation des scientifiques eux-mêmes par des chartes d'éthique, les bonnes pratiques, que ce soit absolument l'éducation des utilisateurs, que ce soit des dispositifs étatiques transnationaux comme les dispositifs européens ou californiens. Mais tout ça bute quand même. Est-ce que tous ces dispositifs ne butent pas et sur un certain nombre d'obstacles? Le secret des affaires, c'est-à-dire la confidentialité des algorithmes pour les entreprises qui les utilisent, le décalage entre le temps numérique qui est vertigineusement rapide et le temps juridique qui est beaucoup plus laborieux et logiquement. C'est bien de réguler, mais est-ce que ça ne bute pas sur des choses fondamentales qui empêchent ou qui freinent au moins la régulation?
Aurélie Jean.
Je vais peut-être répondre en premier si Bruno, ça te va. Concernant la transparence, parce que j'ai beaucoup entendu les gens dire il faut la transparence des algorithmes. Alors moi, je suis contre. Mais, je suis pour la transparence des algorithmes de l'État qui vont manipuler des données citoyennes. Mais si on demande à tous les acteurs privés, dont je fais partie, d'aller publier nos algorithmes publiquement, sur le territoire européen, je ne vais certainement pas déployer mes outils en Europe. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, je pense à ma deuxième entreprise en l'occurrence, c'est ma propriété intellectuelle, c'est ma valeur économique, si on veut revenir au discours initial. En plus, le fait de publier un algorithme ne sert à rien. Si vous publiez un algorithme sans le jeu, les jeux de données sur lesquels ils sont entraînés, et d'ailleurs Elon Musk, Bruno en a parlé, mais a fait ça de manière extrêmement hypocrite, a publié son algorithme de recommandation de contenu de Twitter récemment, mais tous les développeurs et les scientifiques et les ingénieurs l'en ont voulu, on a dit mais on ne peut rien faire avec cet algorithme, il nous faut les jeux de données. Donc, et en plus, ça je le parle dans mon second livre, on applique ce qu'on appelle des méthodes d'explicabilité pour aller extraire la logique de fonctionnement de l'algorithme, mais ça s'applique avant la construction sur les jeux de données, pendant la construction en injectant de l'explicabilité, et une fois que l'algorithme a été conçu. Mais encore une fois, la transparence ne résout pas tout, mais elle rassure. Et je pense qu'il faut davantage de transparence sur les méthodes de développement, la gouvernance algorithmique, donc ça inclut pas mal de choses. Les chartes éthiques, c'est un élément infime. En fait, ce qui compte, c'est les bonnes pratiques de développement, comment vous développez, comment vous concevez, comment vous testez vos algorithmes, et comment vous assurez que ces algorithmes sont bien testés, et comment vous assurez qu'il n'y a pas d'effet bulle. L'effet bulle n'est pas une fatalité. Mais toutes ces choses doivent être réalisées avec des bonnes pratiques.
Une dernière question, Bruno Patino. Perry Barlow, lui, rêvait d'un espace universel, au fond. Est-ce qu'il y a un intermédiaire ou quelque chose d'alternatif entre le modèle libertarien, on l'a dit, qui s'est construit et inventé aux États-Unis, et le modèle autoritaire dont on voit la puissance en Chine aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que cette alternative pourrait être européenne, par exemple?
En tout cas, si vous me dites, est-ce qu'il y a une alternative entre la jungle et le zoo? Oui, j'espère qu'il y a la cité quand même entre les deux.
Donc, entre la jungle,
c'est-à-dire le dire non régulé.
Je caricature, entre la jungle et le goulag.
Oui, si vous voulez, entre la jungle et le goulag, ben, on va espérer qu'il y a la cité. Et on va espérer que c'est ça qu'on construit. Si vous voulez, pour revenir sur, juste en un mot sur ce que dit Aurélie, auquel je souscris sur les algorithmes, on peut prendre une métaphore qui est une métaphore alimentaire. On ne demande à personne de donner ses recettes de ce qu'on vend comme aliment, mais l'impact sur la santé et comment c'est fait. Et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Et moi, je crois qu'on est en train, en tout cas, pour en revenir à votre question... Autrefois, il y avait Ethan Zuckerman, un chercheur au MIT, enfin qui maintenant est à Northwestern, disait il faut 7 ans pour que les politiques comprennent les technologies auxquelles ils ont affaire. Ce que je remarque, vous avez parlé des IA génératives, c'est que ChatGPT 3, 3.5 puis 4 est en ligne depuis quelques semaines ou quelques mois, et on voit, même si c'est dans un discours, que malgré tout, vous avez quelques politiques qui commencent aujourd'hui à se dire il faut quand même qu'on réfléchisse sur l'affaire. Donc les 7 ans ont été quand même réduits.
Il faut une éducation des politiques autant que des...
Ils s'éduquent autant que nous, hein, c'est pas le problème. Je pense juste que aujourd'hui l'impact est tel dans nos vies que plus personne ne s'en désintéresse. Et quand vous regardez ce qui se passe en Europe, DSA, alors on peut être pour ou contre, DMA, malgré tout vous voyez bien que l'Europe en tout cas essaye non pas peut-être d'avoir un Internet à elle toute seule, moi je suis pas tellement en faveur de ce qu'on appelle le splinternet, c'est-à-dire les 3 Internets planétaires, mais d'avoir peut-être un modèle de régulation universelle pour l'Internet.
Cher Gérard Courtois, que vous inspirent tous ces propos?
C'est vertigineux tout ça. C'est vertigineux, mais c'était déjà vertigineux dans le manifeste de Barlow, qui rêvait de créer une nouvelle civilisation. Mais il ajoutait en conclusion, puisque Bruno Patino nous invite à le relire, il ajoutait en conclusion, cette nouvelle civilisation puisse-t-elle être plus juste et plus humaine que le monde actuel? Et 25 ans plus tard, la nouvelle civilisation, elle est là, elle est devenue notre réalité quotidienne, elle s'est développée à une vitesse absolument impressionnante. Est-ce qu'elle construit un monde plus juste et plus humain? Il me semble que nos échanges ont montré que l'on est assez loin encore de cet idéal, ce qui n'est pas une raison pour y renoncer, vous l'avez dit. Mais cela suppose, me semble-t-il, que tous les acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, les politiques, les entreprises, les citoyens, soient conscients des combats à mener. Parlez dans votre dernier livre, Bruno Patino, des combats, des 4 combats. Je les résume, un combat scientifique, méthodologique, un combat éthique et juridique, et au bout du compte, un combat démocratique. Et ce n'est pas tout à fait gagné, mais le pire n'est pas toujours sûr. Et il me semble que nos échanges ont démontré que la forme d'optimisme qu'exprime Aurélie Jean et la forme de lucidité que défend Bruno Patino sont parfaitement compatibles. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir clôturé par ces perspectives futuriste, actuel mais futuriste, notre série d'émissions sur les manifestes qui ont changé le monde.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Émission préparée par Seam Boutata, réalisée par Guillaume Baldi, avec à la technique Amandine Frichoux.